Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. Le coronavirus est passé par là, la crise à Hong Kong aussi. L'heure est au réalisme entre l'Europe et la Chine. Pour preuve, l'Union européenne veut désormais protéger son marché contre des produits de faible qualité environnementale ou trop subventionnés. Elle veut aussi mieux trier les investisseurs. Les explications à Bruxelles de Laxmilota.
Les règles au sein de l'UE sont très strictes. Une entreprise de l'Union ne peut bénéficier de subventions qu'à hauteur de 200 000 euros sur 3 ans. En comparaison, en Chine, Huawei aurait déjà perçu 75 milliards d'euros d'aide, selon le Wall Street Journal. Des chiffres que l'entreprise a démentis. Autre exemple, l'acier et l'aluminium chinois sont fortement subventionnés, de même que les panneaux solaires ou plus récemment des vélos électriques fabriqués en Chine et recevant des aides inondent le marché européen et sont vendus à bas prix. Ces subventions faussent bien évidemment la concurrence. La Commission européenne a donc décidé d'encadrer ces aides d'État. L'exécutif européen prépare à terme une directive pour 2021. Les entreprises étrangères seront soumises à des règles comparables à celles de leurs homologues européennes en ce qui concerne les aides étatiques. En cas de concurrence déloyale, ces entreprises pourraient se voir infliger une amende. Elles pourraient également être exclues d'un appel d'offres pour un marché public. La Commission voudrait aussi interdire à ces sociétés étrangères de toucher des aides européennes en cas de perfusion d'aides d'État. Il pourrait enfin être question de l'empreinte carbone de ces entreprises. Objectif, une taxe aux frontières pour prendre en compte les efforts de ceux qui luttent contre le réchauffement climatique et rééquilibrer la donne. C'est la crise du coronavirus qui a précipité la volonté européenne d'agir face à la concurrence déloyale induite.
Et aux limites de l'Europe, les Balkans ont ouvert leurs portes aux investissements chinois et à la fameuse route de la soie. Industrie, chemin de fer, autoroute, Pékin dépense des milliards en Serbie et le président Aleksandar Vučić qualifie même son homologue chinois de frère. Il va jusqu'à installer des technologies chinoises bien peu respectueuses des libertés individuelles, comme ses caméras de surveillance à Belgrade, Louis Seyé.
Elles sont visibles à presque chaque carrefour de Belgrade. Des caméras blanches à 360 degrés sont désormais massivement présentes dans les rues de la capitale serbe. Danilo Krivokapic est l'un des fondateurs de l'initiative citoyenne des milliers de caméras.
On peut déjà voir autour de nous des centaines et des centaines de caméras apportées par Huawei dans le cadre du projet Safe City. Ce qui veut dire que notre gouvernement a acheté des milliers de caméras équipées de logiciels à reconnaissance faciale. Et leur projet, c'est de couvrir toute la ville avec comme objectif de surveiller tout le monde, partout, tout le temps.
Sur la Trga Republika, la place centrale de Belgrade, pas moins de 18 caméras Huawei scrutent déjà les visages des citoyens et les plaques des véhicules. Les autorités serbes ont signé en 2019 un accord de coopération autour du modèle Safe City, développé par Huawei. Un dispositif de vidéosurveillance intelligent afin d'assurer la sécurité publique. Une décision politique qui n'a fait l'objet d'aucune consultation publique.
Pour le moment, ça ne concerne que Belgrade. Et ça a simplement été annoncé par notre ministère de l'Intérieur dans un talk show. Il s'est vanté que notre police avait acheté ce système extraordinaire, que ça leur permettait de suivre tout le monde, que toutes les rues allaient être surveillées et que ça allait résoudre tous nos problèmes. Et toutes les demandes concernant la liberté de l'information que nous avons envoyées à la police, elles ont toutes été refusées, car tous les documents sont classés confidentiels.
Si dans nombre de démocraties, la 5G, les technologies de surveillance suscitent débats et controverses autour des données personnelles, cela n'a pas été le cas en Serbie. Avec ses camarades activistes, Danilo Krivokapic compte bien imposer cette discussion dans l'agenda public.
Nous voulons que ce soit les citoyens et la société qui décident dans quelle ville ils veulent vivre, parce que cette technologie peut véritablement changer une ville et une société. Donc nous voulons initier un débat pour comprendre quels sont les bénéfices de ce système, mais aussi les risques pour les droits des citoyens. Et d'après moi, quand nous aurons évalué ces bénéfices et ces risques, il sera facile de décider que nous n'avons pas besoin de cette technologie.
Avec le soutien de la Fondation Cher qui milite pour les droits individuels sur Internet, Andrei Petrovski a lancé une application participative afin de recenser toutes les caméras de la ville. Le choix de la technologie chinoise par le gouvernement serbe inquiète particulièrement les militants des libertés individuelles. Après son succès écrasant aux législatives fin juin, le président serbe Aleksandar Vučić dispose de presque tous les pouvoirs. Mais il doit faire face à une profonde défiance. La moitié des électeurs ne se sont pas déplacés au dernier scrutin.
Dans une société comme la nôtre, où les gens ne font pas confiance au gouvernement pour assurer des garanties minimum, prévenir ou combattre les abus, développer ce type de système ne fait que nous diviser encore plus. Ça ne nous rassemble pas, bien au contraire.
La Chine multiplie les projets en Serbie pour des investissements qui avoisinent la dizaine de milliards d'euros. Chemin de fer, autoroute, industrie, sans oublier les nouvelles technologies. Et ce que la diplomatie serbe appelle l'amitié de fer entre Belgrade et Pékin s'est encore renforcé avec le coronavirus. Huawei va d'ailleurs ouvrir un centre de l'innovation pour la transformation numérique à Belgrade. Une dépendance serbe à la technologie chinoise qui suscite l'inquiétude de Andrei Petrovski.
L'Union européenne et l'Europe doivent avoir conscience que la Serbie peut devenir une île chinoise au centre de l'Europe. Et ça concerne autant Paris, Berlin que Belgrade. Parce que si un président annonce qu'une capitale a ce genre de système de surveillance en place, qu'est-ce qui nous dit que demain vous ne l'aurez pas ? Pas seulement à Nice, mais aussi à Paris, à Berlin ou n'importe quelle autre ville en Europe.
L'appétence du président Aleksandar Vučić pour la technologie ne fait aucun doute. En témoignent les images de meetings en ligne du président serbe seul, entouré de dizaines de cybermilitants qui applaudissent à tout rompre. Une cyberpolitique sous influence chinoise au cœur de l'Europe.
Et s'il est un lieu où la redistribution des cartes diplomatiques a été la plus visible, c'est bien à l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Les États-Unis accusent l'organisation de parti pris pro-chinois et se sont retirés de l'agence. L'Europe, depuis, tente de sauver les meubles. Pour en parler, on retrouve à Genève Jérémy Lanche. Bonjour Jérémy.
Oui, bonjour.
Vous êtes le correspondant de RFI à Genève. Expliquez-nous tout d'abord pourquoi le président américain Donald Trump dit que l'OMS est une marionnette de la Chine.
Eh bien déjà, il y a l'affaire de Taïwan. Les autorités de l'île affirment avoir prévenu l'OMS que le nouveau coronavirus pouvait se transmettre entre humains et ce dès le 31 décembre, c'est-à-dire au moment même où la Chine informe l'OMS qu'elle vient de détecter le virus à Wuhan. L'affaire a fait polémique, mais l'OMS a toujours affirmé que le courrier venu de Taïwan ne parlait absolument pas de transmission interhumaine. Autre motif de mécontentement, c'est le zèle, dirons-nous, assez prononcé avec lequel le patron de l'OMS, l'Éthiopien Tedros Ghebreyesus, a très tôt félicité la Chine pour sa gestion de la crise, alors qu'on manquait cruellement d'informations sur ce qui se passait sur le terrain, que des médecins lanceurs d'alerte avaient même été réduits au silence et que l'OMS en interne était très remonté contre le manque de transparence de la Chine. Un responsable s'est même énervé, selon des documents révélés par l'agence Reuters, que Pékin ne donnait des informations à l'OMS que 15 minutes seulement avant la télévision d'État chinoise. Des critiques que l'OMS s'est bien gardée, cela dit, de rendre publiques pour ne pas froisser Pékin et pour envoyer une équipe sur le terrain. Mais ce qui a surtout énervé le locataire de la Maison-Blanche, c'est que l'OMS n'a pas soutenu sa décision d'interdire l'entrée aux États-Unis des personnes venant de Chine. L'agence demandait en effet aux États de ne pas fermer leurs frontières pour ne pas perturber l'acheminement des masques, des respirateurs et même des personnels de santé.
En pleine pandémie, les États-Unis ont donc claqué la porte de l'OMS et coupé leur contribution annuelle de 500 millions de dollars. L'Europe va-t-elle pouvoir compenser ?
Alors boucher le trou, ce sera compliqué. Les États-Unis, c'est entre 15 et 20% du budget de l'OMS, selon si on prend en compte les contributions fixes ou les contributions volontaires. C'est en tout cas beaucoup plus que n'importe quel pays européen et beaucoup plus que la Chine, 10 fois plus même jusqu'ici. Mais le retrait américain a changé la donne. La Chine a déjà dit qu'elle allait augmenter son soutien, les États européens également. Il y a 10 jours, l'Allemagne et la France ont annoncé de nouveaux dons à l'OMS. Le Royaume-Uni a également revu son aide à la hausse. Mais tout cet argent est très lié à la pandémie actuelle, pas forcément destiné aux autres programmes menés par l'OMS. Et il faut distinguer les vraies nouvelles contributions des effets d'annonce qui étaient déjà dans les tuyaux avant la pandémie. L'Europe est en fait coincée entre Washington et Pékin. Si elle partage certaines des critiques de Donald Trump sur le manque de transparence de l'OMS, elle ne veut pas affaiblir l'organisation au moment le plus critique de son histoire, parce que l'OMS n'est peut-être pas parfaite, mais c'est le seul organisme au niveau mondial capable de coordonner la riposte à une pandémie comme celle que nous vivons. C'est pour cette raison que les pays européens discutent en coulisses avec Washington d'une réforme de l'OMS pour la rendre plus transparente, avec l'espoir que Washington accepte à nouveau de siéger à l'organisation et de lui ouvrir surtout son porte-monnaie. L'OMS n'a en tout cas pas attendu le Covid-19 et les luttes d'influence pour tenter de sécuriser ses finances. Après 2 ans de travaux et en pleine pandémie, elle a lancé sa propre fondation pour attirer les fonds privés de plus en plus importants dans le budget de l'OMS.
Merci Jérémy Lanche à Genève. Et on vous emmène en voyage au cœur de l'Italie, en Ombrie. Un jeune agriculteur a eu l'idée, pas si saugrenue, de lancer un élevage de bisons. Un animal qu'on associe plutôt aux grandes plaines américaines, mais qui répond à de nombreuses contraintes environnementales et dont la viande est délicieuse. Reportage sur une agriculture qui promeut aussi l'économie circulaire avec Eric Sénanc.
Vieni, bibi. Des silhouettes brunes massives gambadant en plein air, un regard sévère et ses cornes caractéristiques pointées vers le ciel. Bienvenue sur la terre des bisons. La petite commune de Panicale en Ombrie a peu de traits communs avec les hautes plaines nord-américaines. Elle est pourtant décrite ici comme un petit Far West depuis que Massimiliano Gatti s'y est installé. Cela fait 2 ans et demi que ce jeune éleveur de 35 ans s'est lancé dans ce pari un peu fou, faire paître des bisons d'Amérique, des bêtes qui peuvent atteindre les 800 kilos.
Questi qui sono i nostri bisons.
Ici, ce sont nos bisons mâles d'environ 3 ans et demi. On les élève avec de la haute technologie. Chaque jour, ils vont dans une mangeoire électronique, passent sur une balance qui les pèse et nous donne des données sur ce qu'on doit leur apporter comme compléments de céréales et minéraux, de sorte que le régime de ces bêtes qui broutent soit parfaitement équilibré. On a ainsi une viande d'une qualité optimale tout en les laissant à l'air libre.
Chaque bison porte sur lui une micropuce qui permet en temps réel de suivre leur poids, leur température et leur activité ruminante. Ici, tout est basé sur le bien-être animal, le moins de contact possible avec l'homme. L'abattage se fait sur place pour éviter le stress du voyage. Pas plus d'un bison par semaine n'est abattu. Pour son élevage d'une trentaine de têtes, Massimiliano bénéficie d'un plan de développement rural subventionné par l'Union européenne et la région Ombrie. Son élevage, le seul du genre en Italie, est un peu pensé comme un laboratoire.
On est en train d'expérimenter l'élevage du bison. On surveille son comportement, son alimentation, pour comprendre comment le bison se réadapte à nos territoires.
Il y a des milliers d'années, le bison était déjà élevé sur ces terres d'Italie centrale. Des fossiles de ce grand bovidé ont d'ailleurs été retrouvés dans une commune voisine. Pour Massimiliano, qui a étudié pendant 3 ans l'animal, le bison est bien plus que le produit de son élevage. C'est un animal mythologique qui force le respect.
Pour les Amérindiens, le bison était à la base de leur structure sociale. C'est un animal qui te fait prendre la mesure du respect de la nature, qui fixe la limite entre l'espace que l'homme occupe sur la terre et celui qu'occupe l'animal. Il y a un vieux proverbe indien qui dit « Quand on aura coupé le dernier arbre et tué le dernier bison, il sera difficile de manger notre argent. »
L'élevage de Massimiliano est pensé comme un modèle d'économie circulaire. Le bison, c'est presque comme le cochon, 99% est utilisé. Sa laine, chaude et légère et semblable au cachemire, ses os et ses cornes servent à faire boutons et montures de lunettes et sa graisse permet de fabriquer des savons. Mais l'un des trésors du bison, c'est aussi son cuir incomparable. Nous sommes dans l'atelier de Leonardo Pierini, artisan cordonnier de Pérouse, l'un des clients de Massimiliano.
Là, c'est une peau de bison de 3,7 mm d'épaisseur qui sert à fabriquer les ceintures qu'on appelle pleines fleurs. C'est une pièce unique, sans couture ou en taille. Une fois coupée, la ceinture est teintée, puis cousue. Il n'y a plus qu'à faire les trous.
Depuis que Leonardo le travaille, le cuir de bison a été une petite révolution pour notre artisan cordonnier.
Toutes les peaux que je reçois, je les étale et je les masses pour voir leurs caractéristiques. Là, j'ai vu qu'avec un cuir de bison, j'avais 8 textures différentes, une longueur et une flexibilité jamais vues avant. Un cuir de bison, cela équivaut à 5 ou 6 cuirs classiques. En plus, on peut le travailler aussi bien recto et verso. J'ai compris que la peau de bison faisait vraiment la différence.
Fraîche en été, chaude en hiver et ultra résistante, la peau de bison permet aussi de réduire le gaspillage. Une chaîne vertueuse qui réjouit Leonardo.
La première chose, chose est de respecter le travail de celui qui est avant nous, l'éleveur, et de respecter aussi le client. C'est important de savoir que ceux qui sont passés avant nous ont la même passion, et celui qui élève le bison a une passion innée, c'est sûr. Si on ne privilégiait que l'aspect économique, l'animal serait traité de manière complètement différente. On est tous sur la même ligne. Massimiliano, moi, le teinturier et nos clients, c'est la passion qui nous fait aller de l'avant.
Avec 40% de protéines de plus que le bœuf et la quasi-absence de graisse ou de cholestérol, la viande de bison est aussi prometteuse. Une viande de gourmet et encore chère, au moins 60 euros le kilo. Il faut 3 ans de patience et d'élevage de la bête avant que le bison ne soit abattu. Massimiliano fournit pour l'instant les meilleures tables partout en Italie, comme celle de Walter, qui dans son restaurant situé à une quinzaine de kilomètres de son élevage, sert de la viande de bison en tartare, en carpaccio ou en ragoût avec des tagliatelles. Sur sa carte, une section spéciale est intitulée « Sa Majesté le Bison ».
Au début, j'étais un peu sceptique car la viande coûte très cher. Et puis on l'a adoptée sur notre carte et les gens sont enthousiastes. Le bison n'a pas besoin d'un vin robuste pour l'accompagner. On peut même le déguster avec un champagne ou un vin blanc. Moi, j'aimerais bien que Massimiliano fasse des émules. On trouverait une bien meilleure viande dans le commerce.
Massimiliano nous emmène voir son père Claudio qui l'aide à élever les bisons. Bientôt à la retraite, Claudio, qui a longtemps travaillé dans l'entreprise familiale de farine, voit dans cet élevage un pari sur l'avenir.
Avant, j'avais jamais été éleveur et pour moi, ça a été une renaissance vu mes difficultés professionnelles. Là, je suis heureux. On vit à l'air libre. Le bison a changé ma vie parce qu'à mon âge, c'est pas facile de commencer une activité nouvelle, surtout avec ces bêtes qui restent à l'état sauvage.
Non sono molto addomesticate.
Au début de l'année, Massimiliano Gatti a reçu à Rome un Oscar vert de la part de la Coldiretti, le premier syndicat agricole italien, qui récompense les jeunes agriculteurs et éleveurs innovants. Si son élevage reste encore modeste, il espère en voir de nouveau se développer en Italie et que d'autres régions de la péninsule se transformeront, tel Panical, en petits coins de Far West.
Et pour terminer, cap sur la Turquie, à Rumeli, un port de pêche sur les bords de la mer Noire qui fait encore partie de la mégapole Istanbul. Dépaysement garanti, signé Anand Blauer.
Un phare tout blanc sur une colline parsemée d'arbres et de petits immeubles surplombant un village sans grand charme architectural, mais où des papis embérés assurent le spectacle l'après-midi à l'ombre d'un platane planté ici il y a 110 ans. Au pied de la colline, un autre rassemblement tout aussi coloré de dizaines de barques et de navires de pêche à l'eau ou sur le quai pour être réparés. Au loin, la mer, la raison d'être de ce phare, de ce village et de ses bateaux. Nous sommes à Rumeli Feneri, village d'Istanbul où le détroit du Bosphore rencontre la mer Noire. Rumeli Feneri signifie « phare de Rumeli », la Rumeli désignant autrefois les territoires ottomans situés à l'ouest du Bosphore. Un phare d'Anatolie, Anadolu Feneri, contemple d'ailleurs son cousin depuis la rive d'en face, en Asie. Le phare de Rumeli s'élève ici depuis le XVIe siècle, mais l'ouvrage actuel, haut d'une trentaine de mètres, date de 1856. Ce sont les Français qui l'ont érigé pour sécuriser le passage de leurs navires et de ceux de leurs alliés, entrant et sortant de la mer Noire pendant la guerre de Crimée. L'autre attraction historique des lieux, c'est un fort à 2 tours bâti au milieu du XVIIIe siècle, dont on ne sait pas grand-chose, qui tombe à l'abandon et où des vaches viennent paître lorsque l'herbe y a bien poussé. Difficile de croire qu'on est encore à Istanbul, mégapole aux 16 millions d'habitants habitués au béton davantage qu'au bétail. Stratégique, Rumeli Feneri l'est surtout désormais pour les pêcheurs du village, dont la réputation n'est plus à faire. Rumeli Feneri est d'ailleurs connu comme le plus grand village de pêcheurs de Turquie, avec plus de 350 bateaux enregistrés auprès de la coopérative locale. On y pêche surtout de la bonite, des anchois et du chinchard, que l'on peut déguster sur place, dans quelques restaurants offrant une large vue sur la mer Noire.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot avec le soutien de la Commission européenne. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr, à la rubrique podcast et sur les réseaux sociaux. À demain.